Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Allez, 18h, quasiment 39 minutes. On va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande. Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, l'info autrement. Avec un autre regard, c'est la promesse pour apprendre tout plein de choses jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
Ce soir, on vous emmène dans les bunkers d'Azovstal, un dédale de couloirs souterrains planqués sous une usine. Immersion à la fois fascinante et terrifiante. Au menu également, le chèque rejeté de Nicolas Sarkozy. Et on sera avec, tenez-vous bien, le recordman de France de lancer d'avion en papier. Eh oui, 40 mètres quand même, hein. Wow. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Avec le son du jour.
On voit la violence des combats de ces dernières semaines sur l'usine d'Azovstal.
L'usine d'Azovstal, bombardée, pilonnée depuis des semaines. Vu de l'extérieur, il n'en reste d'ailleurs plus grand-chose. Et pourtant, civils et militaires ukrainiens y ont trouvé refuge pendant 2 mois, terrés dans les sous-sols de cette usine de sidérurgie. Des bunkers sur 6 étages pouvant accueillir 40 000 personnes, vestiges de l'URSS et de la guerre froide dans lesquels l'équipe dont défait le monde a choisi de vous faire pénétrer ce soir.
À quoi ressemblent ces sous-sols? Comment s'organise cette vie souterraine? Et quelle issue pour les soldats qui s'y terrent encore?
Pour le savoir, on a contacté le général Dominique Trinquant. C'est l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Il a pu consulter des schémas du sous-sol de l'usine.
En dessous de l'usine, il y a des souterrains bétonnés, préparés, etc., qui sont sur 5 ou 6 étages, vous voyez, avec des portes hermétiques entre chacun des étages, avec les escaliers qui descendent. Ce sont des grands couloirs, hein, en fait. Vous avez les dortoirs, l'infirmerie, les endroits où on peut manger et les stocks qui sont prévus avec les réfrigérateurs pour pouvoir maintenir la nourriture en état.
Et pour maintenir une parfaite autonomie en eau potable, par exemple ?
Il y a un système d'approvisionnement sur la ville et la capacité de stockage.
Et en termes d'électricité, c'est autonome ?
Alors oui, il y a des générateurs et c'est autonome, tout à fait.
Mais comment expliquer une telle ville souterraine sous une usine ? Vu d'ici, ça paraît complètement fou, improbable.
Oui, vu de France, mais en fait, bah, c'est assez fréquent dans l'ancienne URSS.
Alors un bon nombre d'usines étaient conçues comme celle-là. C'est toute la période de la guerre froide dans laquelle on se préparait contre des attaques nucléaires.
Et pendant des années, donc, c'est resté à l'abandon, si j'ose dire. Il n'y a pas eu besoin de l'utiliser.
Oui, alors je pense que c'est resté à la fois à l'abandon et à la fois entretenu. Il y avait une volonté de maintenir en l'état les sujets, donc il y avait probablement une cellule qui était chargée d'aller voir si tout fonctionnait, si l'électricité fonctionnait, etc., etc. Et en préalable de la guerre, il n'est pas impossible, mais j'en ai pas la certitude, qu'aient été mis en place des stocks d'alimentation, d'eau, etc., pour pouvoir faire fonctionner en souterrain les gens qui seraient à l'abri.
Et les militaires ukrainiens qui restent à l'intérieur, les derniers résistants de Mariupol, ils vont faire quoi maintenant ?
Mais alors, soit se rendre, soit continuer de combattre. Il y a une stratégie militaire, en fait, derrière tout ça.
À partir du moment où il n'y a plus de civils dedans et que les Russes voudraient rentrer à l'intérieur et combattre contre les gens qui sont à l'intérieur, eh bien, c'est l'organisation des obstacles, des mines, des explosifs et des champs de tir qui sont organisés à l'intérieur. Avec la difficulté qui est de piéger ceux qui attaquent, mais d'avoir toujours la capacité de survie et de mouvement pour les autres. En fait, on voit bien que les soldats ukrainiens qui combattent à l'intérieur, c'est un peu, pour prendre un historique français, le combat de la dernière cartouche, hein. C'est-à-dire qu'ils sont là pour maintenir les soldats russes de façon à ce que ceux-ci n'aillent pas combattre ailleurs, en particulier dans le Donbass, sachant qu'un jour ou l'autre, cette usine tombera.
Et un nouveau convoi des Nations Unies est en route pour tenter d'évacuer les civils qui sont toujours pris au piège.
Tenter, c'est le bon terme, ouais. Mais en tout cas, on visualisera grâce aux explications du général beaucoup mieux désormais cette usine Azovstal quand on entendra son nom dans l'actualité.
RTL, sous les radars.
Et oui, on défait maintenant l'info passée aujourd'hui sous les radars.
Ils sont partout sur les réseaux sociaux, brassent des sommes folles alors qu'ils n'ont même pas 16 ans. C'est le business des enfants influenceurs qui va être plus encadré, Laurent.
Oui, parce que sur Instagram, TikTok, YouTube, des enfants peuvent devenir des stars, obtenir des millions de vues sur des tests de produits, des déballages de jouets, avec à la clé, pour certains parents, une rémunération juteuse, mais surtout un travail déguisé pour ces mineurs. Thomas Romer est directeur de l'Observatoire de la parentalité et l'éducation numérique.
sur certaines chaînes très connues où on assistait parfois jusqu'à plus de 35 vidéos par mois qui étaient publiées par les parents sur les chaînes des enfants.
Ouais, des horaires, durée de tournage qui n'étaient pas encadrés. Désormais, c'est clair, les enfants influenceurs qui ont moins de 16 ans ont droit aux mêmes règles protectrices du code du travail que les enfants mannequins ou ceux qui font de la publicité. Le décret est paru le 28 avril dernier.
Bon, alors, concrètement, hein, n'y voyez rien de ma part, mais bon, si l'un de mes enfants veut faire des vidéos, que ça peut rapporter de l'argent, beaucoup d'argent.
On n'y voit rien, rien du tout.
Comment on fait ? Eh bien, avant de tourner les vidéos et de les diffuser, vous devrez, Cyprien, donc vous-même, les parents, demander une autorisation auprès de l'administration. Ah. Et c'est important, placer une partie des revenus gagnés par votre enfant à la caisse des dépôts et consignations.
Ça intéresse beaucoup.
Cet argent lui sera reversé à ses 18 ans, une mesure de protection jusque-là, parce que les parents pouvaient tout dépenser, évidemment, à leur guise.
J'ai envie de continuer à travailler RTL, alors.
Les pauvres enfants finis. Petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec une première info pour briller au dîner avant Marseille Feyenoord.
Julien Cellier, Cyprien Sini
ont défait le monde.
Le vélo. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h46, vous écoutez RTL, on défait toujours le monde dans RTL Soir et on vous offre une nouvelle info pour briller. Alors soit au dîner, soit devant le match ce soir.
Oui, vous en parliez tout à l'heure avec Stéphane Tapi et Pascal Olmeta. Marseille Feyenoord Rotterdam, une place en finale à aller chercher. Et Laurent, vous mauvais français, vous nous parlez de Feyenoord.
Oui. Chers amis marseillais, je vous entends chaque semaine dire à jamais les premiers. Bien sûr. Mais votre victoire en Coupe des clubs champions en 93. Eh bien, les supporters du Feyenoord Rotterdam peuvent le dire aussi. Ah bon, c'est le premier club néerlandais à avoir remporté la célèbre compétition européenne en 1970.
Ah, bien, ils peuvent même
le dire. Et oui, en plus, ils peuvent même le dire, contrairement à vous, deux fois, parce que le Feyenoord a aussi remporté la Coupe de l'UEFA en 74. Là encore, une première pour un club des Pays-Bas.
Génial.
Je vais faire quoi qu'il arrive.
Je peux déjà vous dire, Laurent, je ne sais pas quelle sera l'info pour briller au dîner de Céline, mais je vous assure que vous allez perdre.
Comme d'habitude.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Tiens, en parlant de Céline, c'est le moment où tous les soirs, elle choisit un winner ou un loser. Et ce soir, c'est un perdant.
Un grand perdant de marque ce soir. Nicolas Sarkozy, mesdames, messieurs, oui. L'ancien président qui se prend un énorme râteau par Valérie Pécresse.
Oui, parce que vous l'avez entendu ce matin sur RTL.
Valérie Pécresse ne veut pas l'argent de Nicolas Sarkozy. Il avait fait un don à quatre chiffres. Elle a rendu l'argent.
Oui, recalé le chèque de l'ancien président. Et pourtant, la candidate LR, qui s'est endettée à hauteur de 5 millions d'euros, l'a dit, répété, elle a encore besoin d'argent pour rembourser sa campagne.
Je veux remercier tous les Français qui ont répondu à l'appel aux dons que j'ai lancé au lendemain du premier tour. Mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons auprès de tous les Français qui m'ont apporté leur confiance. Mais aussi auprès de tous ceux qui partagent mes convictions, mais qui, par peur des extrêmes, ont choisi le vote utile dès le premier tour.
Tiens, bah, ça veut dire que ceux qui auraient voté Macron sont concernés. Et c'était pas la seule à demander de l'aide. Même Christian Jacob, le patron LR, le disait.
Il y a besoin de dons, effectivement.
Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros.
Ah oui,
ça
oui,
peut
oui.
Être 30 euros.
Ah oui, ça, il n'y a pas de.
Il y a de tout.
Il y a pas de petits dons.
Ah, pas de petits dons. Alors, quand un chèque à 4 chiffres arrive et.
Valérie Pécresse a immédiatement fait recréditer ce don sur le compte de l'ancien président.
Oh. Un vrai râteau, on vous dit, et pourtant. Valérie disait beaucoup de bien de son président.
Nicolas Sarkozy a remarquablement protégé les Français. Moi, je lui ai redit tout mon affection et mon respect.
Et même en 2012, après sa défaite contre François Hollande, elle défendait encore Nicolas Sarkozy, allait jusqu'à le comparer à Jésus.
Il est mort et enterré pour vous, Nicolas Sarkozy?
Non, c'est le gouvernement auquel j'appartiens qui est mort et enterré et j'en porte le deuil tous les jours. Vous savez, il y a un livre qui est le plus vendu au monde qui s'appelle La Bible, et dans la Bible, il y a la possibilité de la résurrection.
Alors forcément, une fois candidate, elle l'a attendu, son messie ressuscité.
Moi, je n'imagine pas un seul instant qu'il ne me soutienne pas.
Attendu, même la voix cassée.
Moi, j'ai aucun doute, je sais que Nicolas Sarkozy sera aux côtés du candidat de sa famille politique.
Oui, elle a attendu. Attendu, Valérie, mais lui... Non, jamais. Silence radio, jusqu'à ce qu'il annonce son soutien au président Macron pour le second tour. L'affront de trop pour Valérie Pécresse, qui n'a donc pas voulu du chèque à quatre chiffres pour éponger sa dette. Car en politique comme ailleurs...
Les histoires d'aller. Les
histoire d'argent aussi.
En général.
En général. Merci Céline. Petite pause. Et dans un instant, vous gardez la main pour nous offrir une nouvelle info pour briller au dîner. Et on va briller avec Renaud. C'était journée spéciale aujourd'hui. Journée spéciale, on a écouté plein de titres du chanteur. On a entendu son interview ce matin exclusive sur LVT. Eh bien, on va vous parler du chanteur au foulard juste après ça.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h, quasiment 53 minutes. On défait toujours le monde, effectivement, dans RTL Soir. Et voici une nouvelle occasion de briller tout à l'heure autour de la table du dîner.
Journée spéciale Renaud aujourd'hui sur RTL. Vous avez pu entendre le chanteur tout au long de nos rendez-vous en exclusivité audiovisuelle, hein, grâce à Steven Bellery. Et en grande fan, Céline, parce que oui, on peut être fan de Dalida le mardi et de Renaud le jeudi.
C'est l'éclectisme.
Ouais, voilà, vous adorez la musique. Vous nous faites briller grâce à Renaud. Hein.
Oui, parce que derrière le loupard au foulard rouge se cache, à en croire Plastic Bertrand, un amateur de laine. Voilà ce que racontait le chanteur belge à notre camarade Bruno Guillon dans Les Enfants de la Musique.
Il faisait du tricot, je te promets que c'est vrai. Il faisait tricot. Il adorait, il avait une passion pour le tricot.
Oui.
Première télé avec lui, je le vois faire du tricot. Et je te jure, il faisait du tricot en tendant de passer parce qu'il se faisait chier. Il montrait à tout le monde que ça le faisait chier de faire la télé.
Voilà. Et cette anecdote de Renaud et de sa passion pour le tricot aide peut-être à comprendre certaines de ses paroles.
Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses flottes.
De laine.
De laine. Elle pousse les miroirs.
Je sais pas si buvait de la verveine quand même en tricotant.
Ça, j'ai pas d'anecdote là-dessus.
Non, génie.
Je crois que Cyprien est chaud pour le karaoké là.
Je suis fan.
On a compris. Bon, point pour Céline, bien entendu, parce que c'est une anecdote de qualité et parce que Laurent me provoque depuis le début de la journée.
Je fais exprès.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, marche ou rêve, juste avant 19h. On vous passe un petit coup de téléphone et puis vous nous racontez vos projets, vos idées les plus farfelues. C'est un peu le cas ce soir. Et surtout, nous sommes jeudi. Donc le jeudi, c'est...
Jeudi sport. Et oui, vos initiatives, vos explorations rapport avec le sport et rapport avec l'OM ce soir, mais pas pour le marche ou rêve. Non, ce soir, c'est un sport qu'on a tous pratiqué à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais alors, pas à ce niveau-là, Laurent.
Oui, parce que ce soir, c'est un champion de France qui est avec nous, le champion de France du lancer d'avion en papier, recordman, même de la distance, avec un vol de 40 mètres. Oui, oui. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Alors, on a découvert ce championnat de France, mais comment se passe la compétition ?
Alors, la compétition, elle se passe en plusieurs étapes. Il y a d'abord des qualifications plus régionales. Voilà, je me suis qualifié, ça s'est passé sur mon campus.
C'est en extérieur ou en intérieur ?
Non, en intérieur.
Ah ouais, parce qu'avec le vent.
Ouais.
Mais c'est-à-dire, comment ça se passe ? Vous arrivez avec votre amette de papier, vous faites votre avion, chacun fait l'avion qu'il veut ?
Bah, chacun fait l'avion qu'il veut, par contre, le papier est très réglementé.
Ah ouais.
C'est-à-dire, c'est une feuille de 100 grammes et A4.
Ok, et comment on en vient à faire des championnats d'avion à papier ?
C'est beaucoup ennuyé.
Non, mais c'est un hasard ou...
C'est une bonne question, non ? C'est mon BDE que la veille qui avait posté un
truc
sur Insta.
Hein,
voilà, c'est ça. Ouais. Sur Insta en disant, bah écoutez, Red Bull va venir sur le campus pour les qualifications de Paper Wings. Je me suis dit, pourquoi pas moi
hein. Ouais. Et là, ça veut dire qu'avant la compétition, vous vous êtes entraîné, vous avez regardé quel était l'avion le plus performant, comment fallait plier la feuille.
Bah, avant les qualifications, je sais que j'ai regardé un tuto. Un petit tuto, genre 20 minutes avant les qualifications. Puis ça a marché. Je l'ai bien lancé.
Et du coup, donc, ces 40 mètres, comment est-ce possible ? C'est quoi là ? Il y a une petite recette, une petite technique ? Parce que quand on essaie avec toute l'équipe, c'est un bide total.
L'avion, je pense qu'il joue énormément. C'est vraiment un petit javelot, quoi. C'est assez lourd et après, il faut vraiment engager tout le corps et s'arracher le bras.
Ah ouais, parce qu'il y a le lancer, quand même.
Ouais, il y a le lancer, quand même.
Ouais. Ça compte, ouais.
C'est pas comme une fléchette. Faut lancer ça en mettant beaucoup de force ?
Ouais, avec tout le bras, tout le corps, je pense.
Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que du coup, maintenant, vous êtes qualifié. Hein ? Pour les championnats, enfin la finale internationale, c'est quoi ? C'est championnat du monde ?
Championnat du monde, ouais.
Voilà. Championnat du monde.
60 pays représentés.
Ah ouais. Et c'est la semaine prochaine ?
Semaine prochaine, ouais. C'est en Autriche, Salzbourg.
Et qu'est-ce que ça fait de sentir que vous représentez votre pays ?
Il y a un truc ou pas ?
Bah, bon, c'est une petite fierté, hein. Même si c'est pour des compétitions d'avion en papier, c'est fort quand même.
Vous faites des études de quoi ?
D'ingénieur.
Ah bah voilà ! Et vous voulez travailler dans l'aéronautique ou pas ?
Je sais pas trop encore, on verra.
Vous pouvez nous montrer ?
Bien sûr.
Ah ! Alors on va faire un pliage en direct.
Alors, donc au début, on fait un premier pli, on a la feuille comme ça.
Ouais.
On va venir rabattre ici.
On va mettre la vidéo en ligne sur les réseaux sociaux hein, pour que les auditeurs puissent voir toutes les techniques de pliage de l'avion en papier.
La première et puis le deuxième pli juste ici. Et après on va replier
ce pli-là sur lui-même.
Ouais, je suis perdu. C'est un fiasco.
Bon, on a pris une leçon.
Voilà. Bravo. Bonne chance, Julien, pour la finale internationale. Donc, la semaine
Merci
prochaine,
beaucoup.
À partir de jeudi prochain.
Et on prendra des nouvelles, on vous donnera le résultat, évidemment.
Oui, oui. Et puis, on va tout faire pour décrocher le titre.
Voilà, on compte sur vous. Puis, si avant de partir, vous pouvez nous faire quelques avions pour qu'on s'occupe.
Au bureau Mais non, il faut que tu apprennes à les plier. Hein. Merci, Julien.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Julien. Bon, nous, on essaye d'en plier là avec Cyprien. Ah oui, non,
pas du tout comme
non,
ça.
On reconnaît que le pliage est compliqué. Hein.
Le pliage, on fait un concours, Cyprien. Bah, donc, est-ce que vous êtes long?
Allez, 1, 2, 3.
Ah oui, bah, vous m'avez visé.
Moi, j'ai visé.
Bah,
Cyprien aussi. C'est Julien qui gagne.
Ouais. Comme c'est visé dans cette histoire.
C'était minable. 2 mètres chacun.
C'est fait exprès, Laurent.
Mais oui, c'est ça.
2 mètres. 2 mètres.
Lui, c'était 40.
Lui, c'était 40. Oui, voilà. Vous pouvez jauger un petit peu nos qualités. Merci à vous, les amis dont défait le monde. Demain, ce sera vendredi, donc à 18h40 dans RTL Soir. On refera nos
régions.
À très vite dans l'émission, les amis.